Bonsoir à tous. Mais écoutez, tout d'abord, je suis extrêmement honoré de votre présence, la présence de tant d'étudiants et d'un public extrêmement chaleureux, comme tu le disais, Jean-Yves. Je voudrais remercier, bien sûr, l'Université de Rouen, l'Université de toutes les cultures aussi, et puis tout particulièrement mon collègue et ami Jean-Yves Frétinier, avec qui nous avons travaillé à plusieurs reprises et avec lequel je me sens d'ailleurs une grande parenté intellectuelle et scientifique, parce qu'il est l'élève de Pierre Milza, qui était le regretté Pierre Milza, un grand historien qui nous a quittés il y a quelques mois. Et donc je dirais qu'on est soit de la même école historique, soit en tout cas d'une école très voisine. Et si je commence de cette manière, ce n'est pas anodin. Je voudrais justement commencer par cette histoire des écoles historiques, si vous voulez, parce que rien ne va de soi. Ça serait voilà, comme cela que je voudrais commencer ce soir, puisque le numéro que je vais vous présenter ce soir, mais vous verrez que je vais faire bien plus que cela, en tout cas j'espère, eh bien, est l'aboutissement d'un cheminement, non pas personnel, mais d'un cheminement historiographique. Et je commencerai à dire que, en histoire, chaque phénomène peut être analysé sous différents angles, même si vous le savez, aujourd'hui l'heure est à l'approche globale, connectée, qui, selon les entreprises, peut être une mosaïque de points de vue cumulés, ou au contraire, une véritable réflexion d'ensemble sur un objet. Eh bien, je dirais que oui, à l'heure de cette histoire globale, de cette histoire connectée, on peut revendiquer aussi une histoire politique de certains phénomènes. Et ce soir, je voudrais véritablement revendiquer le caractère politique de mon questionnement, le caractère d'histoire politique de ce questionnement et l'affiliation que cela implique. Bien sûr, quand je dis que j'analyse l'immigration d'un point de vue politique, ça ne veut pas dire que j'ignore tous les autres aspects auxquels l'immigration est liée. On ne peut pas couper le réel en tranches ou en domaines. Mais en tout cas, si je n'ignore pas d'autres traditions, d'autres voies d'approche, c'est vraiment dans une perspective d'histoire politique que je voudrais ce soir m'inscrire. Car, et là je ferai appel aux très belles phrases de René Raymond, l'un des pères de cette histoire politique française renouvelée, dont les étudiants en sciences politiques ici présents connaissent bien le nom et les travaux. Et je reviendrai à ce très beau livre, Pour une histoire politique, vous savez qu'on a souvent appelé les mélanges déguisés à René Raymond, où beaucoup de ses disciples ont pris la parole. Et René Raymond avait donné une très belle introduction à cela, et il disait que finalement, si tout n'est pas politique, on ne pourrait pas aller jusque-là, il y a en tout cas partout un peu de politique. Et René Raymond disait, je le cite ici dans Pour une histoire politique, il disait que le renouveau de l'histoire politique a été grandement stimulé par le contact avec d'autres sciences sociales, par les échanges avec d'autres disciplines, et il ajoute que c'est une vérité générale que l'utilité pour toute branche du savoir de s'ouvrir à d'autres et d'accueillir des apports extérieurs, mais, ajoute-t-il, l'objet de l'histoire politique, étant par sa nature interdisciplinaire, lui en fait une nécessité, plus pressante qu'à d'autres, impossible pour elle de pratiquer l'isolement, science carrefour, la pluridisciplinarité est pour elle comme l'air dont elle a besoin pour respirer. Et vous voyez que j'avais préparé mon texte avant de savoir qu'on allait être vraiment dans une perspective interdisciplinaire avec des étudiants et des chercheurs en sciences politiques ce soir. Véritablement, l'histoire politique s'est renouvelée, comme vous le savez, dans les années 70 et 80, justement par ses contacts avec notamment la science politique. Et c'est donc ce soir un angle d'approche politique que je vais privilégier plutôt qu'une histoire politique de l'immigration, vous l'aurez compris. Car je dirais que l'existence même d'un tel numéro sur l'immigration et la vie politique au 19e et au 20e n'aurait rien eu d'évident il y a peut-être encore une quinzaine d'années, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, nul ne songerait dénier au lien entre immigration et vie politique une proximité évidente que chaque jour l'actualité souligne. Mais donc plutôt que de vous donner un résumé de ce numéro, et j'espère susciter en vous l'envie d'aller le lire. Donc, J'aurais voulu plutôt vous raconter les coulisses, alors non pas les petites coulisses, si vous voulez, de la préparation de ce numéro, la cuisine, si vous voulez, qui a présidé à son élaboration, mais plutôt les coulisses intellectuelles, scientifiques depuis plusieurs décennies. Comment en arrive-t-on en 2018 à un numéro sur l'immigration et la vie politique qui soit accepté? Eh bien, cela ne va pas de soi, comme je vous le disais tout à l'heure, car ce numéro, mais pas uniquement ce numéro, bien sûr, il représente un courant, est le fruit d'un questionnement historiographique qui a dû s'imposer. Je disais à l'instant que tous les jours, l'actualité nous montre l'évidence des liens entre la politique et l'immigration, mais il ne faut pas oublier que l'actualité ne signifie pas nécessairement le foisonnement historiographique, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les historiens parfois se méfient de l'actualité. Alors on aurait tort de penser que l'historien, vous savez, selon cette image, vit dans sa tour d'ivoire et se désintéresse du présent. La façon même qu'il a d'interroger le passé reflète son ancrage dans le présent. En revanche, parfois, les historiens sont frileux à l'idée de pouvoir donner des travaux qui mettent des sujets scientifiques qu'on voudrait donc examiner d'une façon froide, avec du recul, le fameux recul de l'historien, eh bien ils sont frileux à peut-être élaborer des travaux qui pourraient être repris, voire instrumentalisés dans le débat public. L'historien se méfie, je le disais parfois, du présent. En tout cas, l'actualité de l'immigration n'est en rien proportionnelle à la place qu'a l'immigration dans les études historiques. Parce que l'histoire de l'immigration, et a fortiori l'histoire politique de l'immigration, a une place souvent périphérique, voire secondaire, dans les études historiques. C'est un constat qui ne manque pas de frapper quand on sait à quel point l'immigration constitue un phénomène éminemment politique en tout temps et en tout lieu. En effet, toute immigration ne découle pas nécessairement de facteurs politiques. Il y a ce qu'on appelle, mais c'est une dichotomie à laquelle je ne souscris pas vraiment, on entend aujourd'hui beaucoup parler de cela, l'immigration politique et l'immigration économique, comme si les facteurs pouvaient être indépendants les uns des autres. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle des immigrations à facteurs plutôt économiques, cette fameuse immigration de masse de l'époque contemporaine. Mais il y a aussi eu des migrations plus culturelles, alors beaucoup plus réduites naturellement. Je pense par exemple à ces écrivains de la génération perdue, par exemple dans l'entre-deux-guerres, qui ont gagné la France pour des raisons intellectuelles, artistiques, parce qu'ils y voyaient l'image vivante du passé, alors que le Nouveau Monde était beaucoup trop ancré dans son siècle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'on prenne l'immigration, on va dire, à dominante économique, l'immigration culturelle ou l'immigration politique, c'est-à-dire ceux qui ont fui leur pays pour des raisons politiques, eh bien, il est évident que dans tous ces cas, l'immigration, en tout cas, constitue un enjeu politique au sens large. Bien sûr, je pourrais revenir sur ces liens généraux entre immigration et politique au sens large, mais je voudrais ici restreindre la focale et la restreindre notamment à l'objectif qui a été le nôtre dans ce dossier que j'ai coordonné avec Ralph Shore, c'est-à-dire d'examiner les liens entre l'immigration et la vie politique. C'est-à-dire la vie politique concrète, avec ses groupes, avec ses acteurs, avec ses structures, avec son jeu institutionnel et électoral, avec ses sensibilités, ses opinions, ses idéologies, autant de champs que privilégie l'histoire politique, en parfait dialogue avec la science politique. En d'autres termes, il s'agit de scruter la manière dont les immigrés s'inscrivent, ou non d'ailleurs, dans la vie politique du pays d'accueil, et par effet de miroir, la façon dont les acteurs de la vie politique agissent face aux immigrés eux-mêmes et à la question migratoire plus généralement. Et lorsque l'on cherche à faire un bilan historiographique, eh bien, je dirais que quiconque tenterait de rassembler de telles études appliquées au domaine migratoire conclurait très rapidement à une forte disparité historiographique. En fait, il y a eu des recherches pionnières, des recherches importantes, mais il y a aussi beaucoup de champs qui attendent encore les historiens qui viendront les explorer. Alors à cela, plusieurs raisons, semble-t-il, qui tiennent à l'état d'esprit, comme à la division des recherches sur cette question. Et s'il est vrai qu'il n'est de bonne histoire que comparée, alors il faudra prolonger l'analyse historiographique, peut-être vers d'autres minorités que les seules minorités migrantes. En tout cas, c'est bien le cœur du problème que l'on touche ici d'emblée, c'est celui de l'émiettement des spécialités en histoire. Un livre important, le livre de François Doss, paru il y a quelques années, mais réédité en 2010, s'appelait « L'histoire en miettes ». Et c'est effectivement un constat que l'on fait de plus en plus pour des raisons d'intérêt, pour des raisons aussi pratiques, parce qu'il faut, vous savez très bien, quand on se lance dans une carrière universitaire, eh bien défricher un champ qui ne l'a pas déjà été. Et donc on va souvent chercher des sujets pointus. Et aussi, il faut bien le dire, parce que les spécialités ont tendance à se découper, et tout cela fait qu'on perd, si vous voulez, le sens des grandes recherches, des grandes investigations sur de grands domaines. Il y a quelques années, en 2012, un historien spécialiste du 19e siècle, qui s'appelle Éric Anceau, avait écrit un article intitulé « Pour une histoire politique totale de la France contemporaine ». Article tout à fait intéressant parce qu'on pourrait dire comment faire une histoire totale qui soit une histoire politique. C'est un article paru dans la revue Histoire, Économie et Société. Et donc il cherchait comment on pouvait, par le biais du politique, aboutir à des questionnements d'histoire totale. Je dirais que cette question s'applique particulièrement à la question de l'immigration, puisque c'est un pari qui semble digne d'être relevé, tant l'histoire de l'immigration, et plus généralement l'histoire des minorités, offre, je dirais, une échelle idéale d'observation des mécanismes de l'insertion en politique. Parce que c'est une échelle qui n'est pas trop réduite, parce qu'elle concerne quand même un groupe large. Alors, est-ce un groupe, celui des immigrés? Il faudra voir cela plus en détail. Mais en tout cas, c'est une échelle qui n'est pas microscopique et donc qui permet des conclusions valables. Et puis, ce n'est pas non plus une échelle trop dispersée pour interdire toute interprétation valide, car elle concerne un groupe, je le disais, identifié et identifiable. Donc, ce n'est pas un groupe trop vaste pour décourager le chercheur ou trop réduit pour lui interdire toute interprétation valide. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais isoler l'aspect politique du reste de la réalité sociale et culturelle de l'immigration. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que l'on a appelé et qui se sont appelés les historiens de l'immigration, ce sont pour la plupart désintéressés de son caractère politique, ce qui peut nous étonner. Et les historiens qui se sont revendiqués historiens du politique ne se sont intéressés que très tardivement à l'immigration. Alors, vous savez, parfois, quand on fait des essais historiographiques, des tentatives d'historiographie, c'est-à-dire qu'on essaie de rassembler de façon raisonnée toute la littérature à propos d'un sujet, eh bien, il y a une tentation, et qui est une tentation tout à fait désagréable, de distribuer les bons et les mauvais points. Alors voilà, un tel a bien fait de publier son livre, l'autre aurait mieux fait de le publier sous cette forme. Non, ça, tout ça, c'est une, je dirais, une prétention qu'ici je vais proscrire. Je veux faire vraiment un bilan le plus objectif possible pour voir ce qui existe, ce qui reste à faire et pourquoi est-ce que les choses existent et pourquoi il existe encore des choses à faire. Je dirais en tout cas que ce soir je plaiderai pour un dialogue plus important entre l'histoire des minorités et l'histoire politique dont en l'espèce les objets d'études se confondent. Alors bien sûr cette tâche est rude, parce qu'il faut démêler des fils qui sont enchevêtrés et parce que cela nous conduit à évoquer une question extrêmement houleuse, que ce soit dans le débat public ou chez les historiens et chez les chercheurs en sciences politiques et sociales d'une façon générale, qui est la question des identités. Jusqu'à une date très récente, les historiens et beaucoup de chercheurs se méfiaient même du terme. Alors, certains récusaient sa validité, d'autres se méfiaient simplement de son emploi. Et aujourd'hui, de plus en plus d'historiens veulent explorer de façon scientifique cette notion des identités. Des identités ici que je qualifierais de difficiles parce qu'elles sont complexes. Ce sont des identités qui s'articulent entre plusieurs pays, le pays d'origine du migrant, son pays d'arrivée. Et puis aussi, il n'y a pas que des identités qu'on appelle généralement culturelles au sens très large. Il y a aussi des identités politiques, des appartenances qui sont choisies ou non. Donc tout cela est extraordinairement complexe et c'est ce que j'appellerais, si vous voulez, des identités difficiles, comme le philosophe Lévinas avait parlé de difficiles libertés. En tout cas, peu importe les chemins historiographiques qu'ils ont pris, les historiens disposent de tous les moyens même de faire de cette entreprise un succès. Alors, quand un champ historiographique, quand un domaine historiographique s'ouvre, il est, c'est normal, à la recherche d'une légitimité. Il en va d'ailleurs des historiens comme des minorités qu'ils ont cherché à examiner. Car, vous le savez très bien, la minorité, le fait minoritaire, ce n'est pas une question de chiffres, bien sûr, mais une question de situation par rapport à une majorité, eh bien, c'est la situation de l'entre-deux, par excellence. C'est-à-dire qu'on n'est ni là-bas, ni ici complètement, et qu'on doit en permanence montrer ses lettres de légitimité. Eh bien, c'est la même chose pour les historiens qui, les premiers, ont essayé de s'intéresser à cette question des minorités en immigration. Je dirais que cette histoire remonte aux années 80. C'est véritablement dans les années 80 que les historiens ont commencé à se pencher scientifiquement de façon approfondie sur l'histoire de l'immigration. Alors, années 80, bien sûr, une année, les années en France qui voient l'essor de l'extrême droite, les revendications de certaines minorités, et donc tout cela interpelle tout de même les historiens qui répondent à ce qu'on pourrait appeler une demande sociale. Et donc, il a semblé que ce traitement était urgent. Pourquoi ? Urgent déjà pour connaître, pour savoir, c'est le rôle de l'historien, celui de faire la lumière sur le passé. Mais aussi urgent parce que dans les années 80, avec l'essor justement au premier plan de cette question de l'immigration, il fallait peut-être aussi faire taire certains fantasmes et une certaine irrationalité. Mais les historiens qui ont cherché à s'intéresser à l'immigration dans les années 1980 ne se sont pas, pour la majorité d'entre eux, penchés sur les aspects politiques. Je dirais que la politique n'a été qu'un des aspects explorés. Puisque les historiens pionniers de l'immigration venaient de cercles institutionnels, de cercles historiographiques variés, et ils avaient leurs propres considérations quand ils se sont attachés à cette analyse. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que l'historien qui s'interroge sur le social ne s'interroge qu'à cet aspect. Naturellement, vous l'avez compris de ce que j'ai dit précédemment. Mais je dirais que plutôt que de distinguer trois écoles qu'on pourrait appeler, disons, histoire sociale de l'immigration, histoire politique de l'immigration et histoire de l'immigration vue sous le prisme des relations internationales, je distinguerai ce que je pourrais appeler trois pôles de prédilection chez ces historiens. Alors vous l'avez compris, il y a trois grands domaines qui n'étaient pas délimités par des cloisons étanches, mais qui étaient des domaines voisins. Alors il y a eu, bien sûr, d'abord, l'histoire des relations internationales, avec la figure que je citais tout à l'heure, qui est la figure de Pierre Milza, qui, en 1981, publie une thèse soutenue en 1978, sous la direction d'un grand spécialiste des relations internationales, Jean-Baptiste Durosel. Eh bien, il publie une thèse intitulée « Français et Italiens à la fin du XIXe siècle, aux origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902 », qui reste pour nous tous une grande référence en la matière. Et là, la démarche novatrice de Pierre Milza dans ce travail, c'est qu'il a voulu interroger l'histoire des relations internationales sous tous ses aspects. Et dans ces aspects, il y a ce qu'il a appelé le poids des contacts directs, le poids des contacts entre populations. Et là, il s'est intéressé aux Français, c'est vrai, qui ont vécu en Italie, mais surtout aux Italiens qui sont venus s'installer en France. Et donc, il a lancé, ensuite, à la tête de nombreux, de plusieurs structures institutionnelles, et puis il a lancé, bien sûr, aussi beaucoup de recherches sur ce sujet, il a lancé donc un véritable courant, c'est-à-dire ce courant de l'histoire de l'immigration comme dimension d'une prise en compte des relations internationales. Puis il y a eu aussi l'histoire sociale, une histoire sociale très centrée sur le mouvement ouvrier, bien sûr, qui n'est jamais très loin de la sphère politique, et qui est caractérisée notamment par les travaux de Michel Perrault, d'Yves Lequin et d'une figure que vous connaissez sans doute, Gérard Noiriel, qui a travaillé beaucoup sur les ouvriers et dont la thèse porte sur le bassin de Longwy, sur les immigrés et les prolétaires, une thèse publiée en 1984. Et puis il y a la troisième école, celle plutôt de l'histoire politique, c'est-à-dire des historiens qui s'intégraient à une démarche d'histoire politique, mais ces historiens étaient extrêmement peu nombreux. Ils ont écrit deux grandes thèses, mais ils étaient peu nombreux car je vous rappelle que dans les années 70, il y a encore un très fort discrédit qui pèse sur l'histoire politique en France, qu'on assimile à l'histoire des puissants, à l'histoire des dominants, comme on disait à l'époque, et alors qu'il fallait s'intéresser à l'histoire, ben peut-être je reprendrai ce nom, des sans-voix, de ceux qu'on n'entendait pas, de ces militants, de ces ouvriers, de ces gens de peu qui venaient construire une nouvelle vie en France. Et l'histoire politique était considérée justement comme cette histoire événementielle, bien sûr vous savez qu'il n'en est rien maintenant, mais une histoire événementielle, une histoire des structures, des institutions. Mais il y a eu dans cette école deux grandes thèses soutenues dans les années 70 et publiées dans les années 80. Vous savez qu'à l'époque c'était le format de la thèse d'État, hein, c'était une dizaine d'années de recherche. Et ces deux thèses sont celles de Jean-Charles Bonnet, qui a publié une thèse sur les pouvoirs publics français et l'immigration dans l'entre-deux-guerres, une thèse qu'il a rédigée à l'Université de Lyon. Et la deuxième grande thèse sur ce point est la thèse de Ralph Shore, qui a été mon directeur de thèse, et vous comprenez dans quelle filiation je m'inscris. Et cette thèse porte sur l'opinion française et les étrangers en France de 1919 à 1939. Vous comprenez que dans les années 80, on ne parle pas de l'histoire de l'immigration au présent. On évoque l'histoire de l'immigration dans l'entre-deux-guerres, car on estime qu'il y a un recul, une distance de sécurité, si vous me passez cette expression un peu triviale, respectée. Et on va s'intéresser donc à l'histoire politique proprement dite, avec l'histoire des pouvoirs publics, mais aussi à l'histoire des représentations, ce qu'on appelle à l'époque l'histoire des mentalités, l'histoire de l'opinion publique, c'est-à-dire la manière dont les immigrés sont devenus une question en France. Il y a eu bien sûr beaucoup d'autres travaux, mais je vous parle ici des premiers travaux en la matière dans ces trois écoles. Et donc, il était mal vu à l'époque de faire une thèse qui se revendique d'histoire politique, mais je vous dirais que quand je me suis lancé dans mon sujet de thèse et que je l'ai circonscrit avec mon directeur de thèse, je lui ai dit « je voudrais faire une histoire politique de l'immigration sous la 4e République ». Alors pour deux raisons, déjà la 3e était prise par mon directeur de thèse, je ne pouvais pas prétendre faire mieux que lui bien sûr, et la 5e avait été prise aussi par un autre chercheur de l'université de Nice, Yvan Gaston. Et donc il restait une petite niche, si j'ose dire, la 4e République, mais j'aurais aussi bien pu travailler sur des périodes balisées sous un autre angle. Mais je me suis dit finalement, je vais travailler sur la 4e République, parce que c'est un régime, vous savez très bien qu'on l'appelle la mal-aimée, mais c'est un régime qui est dans un entre-deux, au lendemain, avec cette problématique très fertile aujourd'hui en histoire des lendemains de guerre. Donc comment est-ce qu'on gère l'immigration au lendemain de la guerre, alors que les immigrés ne veulent pas venir après la guerre? Et c'est aussi une phase préparatoire à la 5e République, pendant laquelle va éclater la question de l'immigration sur le devant de la scène. Alors parfois, il y a une tentation qui est forte, ça fait deux fois que je prononce le mot, mais vous comprenez, c'est le péché qui guette le chercheur, c'est de vouloir souvent faire de la période qu'on étudie l'alpha et l'oméga de toute question en expliquant, oui, bien sûr, la 5e République, mais tout était déjà dans la 4e République. Alors, je n'ai pas eu cette prétention, mais je me suis dit, il est intéressant de voir comment l'État s'est organisé et a réagi face à la question de l'immigration, comment les Français ont réagi face à cette question dans une période de creux migratoire. Et il n'y en a pas beaucoup en histoire contemporaine. La 4e République est véritablement une phase où l'État cherche les immigrés et va mettre en place un arsenal tout à fait intéressant qui sera repris par la suite, mais alors que, si j'ose dire, il ne fait pas recette tout de suite. Je disais donc que quand j'ai voulu m'intéresser à ce sujet, beaucoup m'ont découragé en me disant « c'est un sujet qui sonne un petit peu, années 80, etc. » Alors moi, je ne voulais pas sacrifier à une mode historique, ça ne m'intéressait pas, je voulais vraiment me plonger dans les archives, en plus en faisant une histoire à l'échelle de la France, ce qui n'est pas toujours évident quand on habite à Nice, où tout est loin et où il faut toujours passer par Paris pour aller dans les différents centres de recherche de province. Mais en tout cas, j'avais quand même un peu, entre guillemets, modernisé mon sujet en me disant « je ne vais pas travailler sur l'immigration sous la 4e République », qui serait peut-être facture assez classique, mais en renversant la question et en faisant la 4e République et l'immigration, avec une problématique qui m'intéressait beaucoup, qui était celle de la structure, si vous voulez, de l'État, et face à la question de l'immigration. Mais j'ai eu, si j'ose dire, la chance de commencer ma thèse dans les années, à la fin des années 2000, où je n'avais plus besoin de prouver que mon sujet était légitime. On pouvait me le décourager pour plusieurs questions, mais je n'avais pas à expliquer que le sujet de l'immigration était un sujet. Car, pendant longtemps, les historiens ont dû prouver que ce sujet était légitime. Mais ce n'est pas simplement pour des questions de chapelle, de carrière, c'est pour des raisons qui tiennent à l'immigration même. Je dirais que depuis les origines même de la politique, prévaut une idée extrêmement puissante qui a traversé les siècles avec une aisance remarquable, selon laquelle la contrepartie du droit d'accueil et d'asile accordé à l'étranger réside dans un devoir de réserve et de neutralité politique. En gros, le bon étranger, dans l'imaginaire des peuples, mais aussi dans l'imaginaire des États, alors quand je parle d'États, bien sûr, je ne parle pas de monstres froids, je parle bien sûr des hommes qui lui donnent chair, eh bien le bon étranger est celui qui se pare de discrétion, qui se cantonne à une volontaire atonie politique. Et si vous vous intéressez à ce volume, il y a beaucoup de textes qui évoquent à la fois l'entre-deux-guerres. Moi, j'ai travaillé bien sûr sur la 4e République et sur la place des associations étrangères. Il y avait des associations politiques sous la 4e République, auxquelles on a réservé un sort parfois complexe, qui, si vous voulez, est extrêmement minoritaire et qui contraste avec le désir de la majorité des immigrés de répondre à un discours extrêmement bien huilé, celui de, bien sûr, nous avons déjà beaucoup de chance d'être en France, nous n'allons pas nous mêler des affaires internes de la France. Et la grande enquête, la première grande enquête d'ampleur nationale, alors qu'on pourrait critiquer sur ces méthodes, date des années 50. C'est une enquête qui s'appelle « Français immigrés » qui a été commandé par l'Institut national d'études démographiques, qui naît en 1945, qui a publié cette recherche en deux volumes, et qui va donc interroger beaucoup d'immigrés. Ça, c'est une source extrêmement précieuse pour nous. On peut encore faire des entretiens, mais vous savez très bien que la mémoire, parfois, n'est pas la fidèle alliée de l'historien, parce que les choses sont enjolivées, et puis aussi parce qu'on a tendance peut-être à regarder les choses avec le prisme d'aujourd'hui. À l'époque, il était très malvenu donc de dire qu'on appartenait à une association, et même de dire qu'on lisait un journal politique, à l'époque, était quelque chose qui pouvait vous valoir la méfiance des pouvoirs publics. Donc, il y a cette dimension qui fait que les historiens ont eu du mal à faire parler les sources. Et puis, il y a une juriste qui a beaucoup écrit sur cette question, qui s'appelle Danielle Lochak, qui a écrit en 1985, vous voyez toujours cette décennie 80, où on commence vraiment à poser des jalons essentiels, dans un ouvrage qui s'appelle « Étrangers de quel droit ?» avec un point d'interrogation. Elle montre qu'il existe une incapacité générale et quasi universelle qui frappe l'étranger dans la sphère politique. Et elle précise, n'appartenant pas au groupe social constitué en communauté politique, l'étranger ne peut logiquement ni exercer des fonctions qui lui conféreraient une fraction du pouvoir au sein du groupe, ni participer à la désignation des gouvernants. Et cette double exclusion, qui frappe même parfois les naturalisés de fraîche date, comme s'il fallait en quelque sorte qu'ils aient fait leur preuve, s'est maintenue, à peu près intacte depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, plus ou moins visible et rigoureuse simplement selon les formes politiques qu'ont revêtues les citoyennes et les sociétés. Vous comprenez donc, à la lecture de cet ouvrage extrêmement important, que la question, c'est que citoyenneté rime avec nationalité. Et le cas français l'a démontré de longue date concernant le rapport aux étrangers. Car, et là, il faut que je fasse une distinction, elle est essentielle, elle est à la fois banale mais essentielle. Car il y a des immigrés, je parle depuis tout à l'heure d'immigrés, qui ne sont pas des étrangers. Vous savez qu'étranger, c'est le fait de ne pas avoir la nationalité du pays dans lequel on vit, en l'occurrence la nationalité française. Mais être immigré, c'est simplement être né à l'étranger. Donc on pourrait être né à l'étranger et bien sûr avoir obtenu sa naturalisation. Mais jusqu'aux années 80, il y avait ce que Danielle Lochak appelait des incapacités, c'est-à-dire qu'après la naturalisation, il y avait encore un certain nombre d'années où on ne pouvait pas voter, on ne pouvait pas se présenter et on ne pouvait pas exercer de fonction de représentation. Donc, si vous voulez, il semble que les étrangers, bien sûr, mais également les immigrés, aient été assignés à demeurer marqués par un germe de différence. Et finalement, étrangers et immigrés ont eu le même destin, qu'ils aient eu la nationalité française ou pas. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils ne se soient pas investis dans la vie politique. Et on peut toujours faire de la politique sans en avoir l'air, à travers des associations culturelles ou autres. Mais en tout cas, en France, il est certain, d'ailleurs que même cela s'entend dans les termes, puisque en France on parle d'immigrés, où il y a une certaine connotation passive, si vous voulez, alors qu'outre-Atlantique, on parle plus volontiers de l'immigrant, c'est-à-dire où il y a déjà une dimension plus active. Alors vous me direz, c'est une petite distinction sémantique, mais elle veut quand même, à mon avis, dire beaucoup. Alors aujourd'hui, on parle de migrants, mais c'est dans un cadre différent, plutôt de démographie. Mais en tout cas, pendant longtemps, on a parlé, et on parle toujours, d'immigrés. En fait, vous comprenez donc, à travers ces incapacités, que le sujet n'est pas paru essentiel aux historiens et à beaucoup de chercheurs. En fait, je dirais que cette constante qui consiste en une méfiance de la part des pouvoirs publics a fait que peut-être en un certain sens, jusqu'aux années 80, les historiens se sont appropriés cette idée que finalement l'étranger ou l'immigré est quelqu'un qui ne fait pas de politique, jusqu'au moment où on s'est véritablement intéressé à cela. Et on n'y est pas venu, directement par la question générale de l'immigration. Car dans les années 80, il y a, je pourrais dire, un quasi-procès qui est intenté à beaucoup d'historiens français spécialistes des Juifs de France, et particulièrement des immigrés. Jean-Yves Frétigny vous a rappelé que j'avais un petit peu travaillé là-dessus. Et en fait, on se rend compte que dans les années 80, des chercheurs américains, certains très célèbres, comme Michael Marus, qui a écrit avec Robert Paxton, que vous connaissez, l'ouvrage sur Vichy et les Juifs, eh bien, Michael Marus, d'autres comme David Weinberg, vont dire que les historiens français, spécialistes des Juifs de France, cherchent à minorer l'engagement politique que ceux-ci ont eu dans les années 30. L'idée, et vous le savez très bien, elle était lourde de conséquences intellectuelles et même historiques, était l'idée d'une passivité quasi générale des Juifs face au sort qui les attendait. Et quand on s'intéresse aux archives, on se rend compte, évidemment, qu'il y a eu une intense activité, mais que cette activité était extrêmement puissante chez les Juifs immigrés, c'est-à-dire les Juifs qui sont venus avec des traditions politiques d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, alors que les Juifs de France les plus anciennement installés, eux, de peur d'alimenter le motif antisémite du juif qui dirige l'État et qui a du pouvoir, eh bien, se sont interdits de prendre publiquement parti politiquement. Et mon premier travail de recherche a été un travail sur la manière dont les Juifs de France ont réagi à la montée du fascisme. Et là aussi, tout est une question d'échelle et de point de vue. Si j'avais choisi les Juifs de France face au nazisme, il est évident qu'il y avait une telle implication directe sur les observateurs, que peut-être ça aurait pu biaiser le regard, même s'il faut bien sûr se méfier de tout déterminisme. J'ai voulu choisir une question, si vous voulez, un petit peu plus lointaine, parce que les Juifs de France se sont beaucoup intéressés au destin de l'Italie fasciste, et surtout au destin des Juifs italiens sous le fascisme. Les Juifs italiens, cela a été prouvé de longue date, notamment dans les travaux de Pierre Birnbaum, étaient d'ardents républicains, car pour eux, la République, c'était l'émancipation, c'était la liberté. Et beaucoup de travaux ont été réalisés sur la question, mais il a été très bien montré que les Juifs de France ont assimilé la France à une nouvelle terre promise à la fin du XIXe siècle et jusque dans les années 30. Vous comprenez la désillusion qui a été la leur par la suite, mais qui n'a pas été quand même tuée par Vichy malgré tout. Et ça, c'est une donnée qu'il faut souligner. Eh bien, les Juifs de France disaient que leur arrivée en France, leur émancipation était une nouvelle sortie d'Égypte, que la République était une nouvelle Pâque, une nouvelle libération. Et donc, c'est vrai, c'est un fait, les historiens, les Juifs français ont montré cet attachement, mais aussi cette frilosité à prendre part au débat politique. Et les historiens américains dont je vous parlais tout à l'heure se sont inscrits en faux. Et ils ont intenté un procès d'intention à beaucoup d'historiens français en leur disant, non seulement vous montrez que les Juifs sont apolitisés ou dépolitisés, comme vous voulez, mais en plus vous le montrez car vous craignez vous-même que vos travaux n'alimentent une propagande antisémite actuelle. Et donc, quelque peu courroucés, froissés. Les historiens se sont remis au travail et ont commencé à s'intéresser justement à l'engagement politique des Juifs de France dans les années 30. Et ce sont les premiers travaux qui ont commencé à être réalisés. Et quand j'ai moi-même travaillé sur les Juifs de France face à l'Italie fasciste dans l'entre-deux-guerres, je me suis dit, tiens, comment est-ce que ces ardents républicains considèrent un régime fasciste, mais où les Juifs jusqu'aux années 35-37 sont extrêmement bien considérés et sont au cœur de l'État et du pouvoir fasciste. Vous savez que celle qu'on nomme sobrement la première collaboratrice de Mussolini, qui était sa maîtresse, Margarita Sarfatti, était juive. Et donc, à cette époque, il y a eu une publication américaine qui avait élu Mussolini, on est en 1933, la date de l'avènement d'Hitler, une publication américaine élit Mussolini parmi les plus grands défenseurs du judaïsme mondial. Et je me suis dit, comment ces Juifs de France ont-ils réagi? Parce qu'ils étaient là, bien malaisés, bien dans une situation bien malaisée, parce qu'ils étaient intéressés. Le sort des Juifs dans le monde était tellement lamentable que pour une fois qu'un pays donnait l'image d'un Éden, et ils n'auraient pas pu le critiquer, même tombé aux mains du fascisme. Et donc, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un champ à explorer, celui de, si vous voulez, la minorité en politique. Qu'est-ce que c'est que s'engager en minorité? Et par la suite, vous le savez, est venu le temps des premières synthèses. On a fait des thèses, on a cherché, on a écrit des articles, on a écrit des ouvrages, et puis est venu le temps des premières synthèses où l'histoire politique a eu toute son importance. Au même moment, en sciences politiques, le même phénomène commence à apparaître, puisque la première thèse de sciences politiques, à ma connaissance, est due à la politiste Catherine Vitol de Vinden, qui, en 1988, publie sa thèse intitulée « Les immigrés et la politique, 150 ans d'évolution ». Et j'ai repris, pour notre rencontre de ce soir, l'introduction de sa thèse, et elle dit quelque chose d'extrêmement clair. Elle dit « Lorsque j'ai entrepris ce vaste travail, je courais le risque de m'aventurer sur un terrain semé d'embûches et sur des chemins hasardeux par rapport aux voies royales de la science politique qu'est, en France, l'étude des élections, des institutions, des partis ou des élites. En un mot, l'univers de la politique professionnalisée que d'aucuns nomment politique-politicienne. J'abordais le champ des relations entre les immigrés et la politique avec le sentiment à la fois stimulant et un peu effrayant d'effectuer un travail de pionnier, un travail solitaire de surcroît, car les problèmes de l'immigration ont longtemps été marginalisés par la science politique française qui commence aujourd'hui à s'en préoccuper. Au moment où je l'ai proposé, mon sujet apparaissait presque contradictoire à certains, car les immigrés, exclus du vote, intéressaient peu les politologues, constituaient des milieux difficiles à connaître aux yeux de beaucoup et semblaient, de surcroît, manifester peu d'intérêt pour l'espace public légitime, même s'ils s'exprimaient autrement. Vous voyez qu'il y a donc, si j'ose dire, une interdisciplinarité de la découverte de l'immigration politique. Et petit à petit, on va commencer à prendre position. Alors, vous savez comment les historiens prennent position. Ils peuvent prendre position dans des médias, aujourd'hui sur des plateaux de télévision, à la radio, dans des tribunes. Mais à l'époque, ils peuvent aussi prendre position sans en avoir l'air, c'est-à-dire en donnant des éléments qui s'inscrivent dans le passé, mais qui sont des éléments de la compréhension du présent la plus immédiate. Un historien qui a coordonné un ouvrage sur l'immigration, la vie politique et le populisme en banlieue parisienne, Jean-Paul Brunet, dit qu'il y a un contraste entre la surchauffe médiatique et le déficit scientifique. Et il prend justement la banlieue parisienne parce que ça lui permet de replacer son étude dans le temps long. Alors je le disais, tant des premiers travaux pointus, précis, tant des premières synthèses, et puis aussi tant des premières monographies sur les nationalités. Et là, ces pionniers de la recherche vont confier à leurs étudiants, voire vont se charger eux-mêmes, de lancer des recherches sur des nationalités. Et il est évident que certaines nationalités, par tradition, par expérience, ont semblé, si vous me passez cette expression, plus politiques que d'autres. Et donc, les historiens ont commencé à faire du groupe national une échelle d'analyse privilégiée. Alors, on lit souvent que les Italiens constituent, pour qui veut saisir les mécanismes migratoires dans tous les aspects, dans tous leurs aspects à l'échelle du siècle, une nationalité exemplaire, c'est-à-dire que c'est un exemple parfait, puis que c'est à la valeur de modèle, vous savez, dont on est souvent friand dans la recherche. Et donc, je dirais que le traitement que les historiens ont réservé aux Italiens est lui aussi exemplaire, puisque je dirais que les Italiens sont aujourd'hui la nationalité étrangère la mieux connue sous le plan politique pour toutes les époques, pour tous les aspects, Italiens antifascistes, Italiens fascistes, Italiens anarchistes, Italiens non politisés, Italiens politisés sous la branche culturelle. Je pourrais ne pas arrêter cette litanie. Alors, bien sûr, la période de prédilection est celle de l'entre-deux-guerres, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, parce qu'il y a une certaine distance, mais aussi parce que c'est la grande période des affrontements politiques, évidemment, où on va transférer, exporter vers la France des querelles issues et héritées du pays d'origine. Alors aujourd'hui, on a donné à cela un nom, le transnationalisme, c'est-à-dire qu'on étudie l'histoire des migrations qui, par essence, est transnationale, puisqu'on passe d'un pays à un autre et que, bien sûr, les rapports avec le pays d'origine ne sont jamais effacés. C'est ce qu'un ouvrage a appelé « Loin des yeux, près du cœur ». On appelle ça aujourd'hui le transnationalisme, c'est-à-dire, non pas simplement la circulation des personnes, il n'y avait pas besoin d'inventer ce mot savant pour expliquer que l'immigrant ou l'immigré passe d'un pays à un autre, mais qu'il transfère avec lui des idées, des traditions politiques, une certaine façon de faire de la politique, ce qu'on pourrait appeler des transferts politiques, si vous voulez, ou des transferts culturels du politique. Alors ça s'explique aussi par le fait que les Italiens sont une nationalité extrêmement ancienne en France. C'est la première dans l'entre-deux-guerres, et puis il y a eu des structures et des phénomènes aussi institutionnels. La présence tutélaire de Pierre Milza, qui a lancé des grands travaux, notamment ceux de Marie-Claude Blanchalère. Et puis il y a eu ensuite le temps des nationalités européennes, les Espagnols, qui ont trouvé aussi beaucoup d'historiens pour les explorer, notamment la guerre d'Espagne. Et puis ensuite, vous savez comment les choses se passent. On va explorer la chose la plus évidente, et les antifranquistes. Et puis ensuite, on va analyser aussi les Espagnols qui étaient immigrés, mais de plus ancienne date, qui sont venus avant la guerre civile et qui, eux, étaient favorables à Franco. Les Italiens qui, eux, étaient favorables à Mussolini. Tout cela va complexifier le kaléidoscope, si vous voulez, des nationalités immigrées en France. Et puis, au fur et à mesure que le temps avance, est venu aussi le temps des Algériens. Alors, je ne vais pas tout évoquer ici, parce que vous avez justement dans ce numéro plusieurs textes qui traitent des Italiens. Alors vous avez un texte sur les Italiens dans la longue durée, sur la présence et l'invisibilité des Italiens, où Éric Vial montre qu'en fait l'italianité au 19e et jusqu'aux années 60 est un, comme on pourrait dire, un brevet non revendiqué en politique, et puis que récemment, dans les années 90 et 2000, l'origine italienne est brandie justement pour et elle est valorisée en politique pour des raisons électorales, mais aussi pour des raisons plus généralement culturelles. Et puis, donc, on commence à s'intéresser à de grandes théories, et là, c'est un sociologue, Stéphane Dufoy, qui va mettre au point le concept d'exopolitie, c'est-à-dire comment faire de la politique en exil. Eh bien, il y a des convergences, il y a des concurrences, et on va commencer à affiner le questionnement. On va distinguer l'immigration politique, la vie politique des immigrés, le sentiment politique des immigrés qui ne se sont pas forcément impliqués et engagés, et également le tissu d'activités déguisées qui pouvaient être des activités politiques. Alors, il y a un chiffre, il vaut ce qu'il vaut, on dit qu'en général, pas plus de 20% d'une nationalité n'est politisée. Alors, c'est un chiffre, bien sûr, qui repose, à l'époque, sur ces fameux sondages avant la lettre, ces enquêtes, mais bien sûr, tout cela est discutable, parce qu'il y a, on peut compter les membres d'associations qui se résument à une plaque sur un mur, on peut aussi s'interroger sur le véritable intérêt, ce qu'on appelle les stratégies aussi de ceux qui s'engagent. Tout cela est extraordinairement complexe et vous comprenez qu'en fait, étudier la vie politique des immigrés, c'est essayer en fait de sonder les âmes. Pourquoi est-ce qu'on s'engageait? Comment? Est-ce qu'il y avait une stratégie? Est-ce qu'il y avait une sincérité? Et puis surtout, quel était l'objectif? L'objectif était-il de retourner chez soi pour lutter chez soi? Ou au contraire, était-il de d'abord transférer la lutte ailleurs et puis ensuite peut-être s'insérer dans les luttes nationales? Mais les choses ne sont jamais simples. Beaucoup d'Espagnols, par exemple, y compris après, bien après la guerre d'Espagne, ont demandé la nationalité française pour pouvoir voter en France et pour pouvoir peser sur un débat qui avait lieu dans leur pays d'origine. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de simple sur ces questionnements-là. C'est la même chose concernant les Algériens. J'ai trouvé dans beaucoup d'archives chefs d'associations qui poussaient les Algériens qui le pouvaient à voter. Mais pourquoi? Pour pouvoir influencer la politique française et devenir, si vous voulez, une espèce d'électorat convoité. Tout cela fait que on a donc des études extrêmement riches sur l'immigration. Mais il y a un problème, c'est que ce qui vaut pour une nationalité ne vaut pas forcément pour une autre. Et que les historiens qui ont cherché à dresser de grands systèmes se sont heurtés, eh bien, à la permanence, à la persévérance des faits historiques. Les Italiens politisés dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire au moment du fascisme, eh bien, ont subi cette ombre portée bien longtemps après. Et ceux les Espagnols ont, eux, subi, si vous voulez, cet effet de la guerre d'Espagne bien longtemps après. Pareil pour les Algériens et la guerre d'Algérie. Tout cela fait des temporalités extrêmement complexes et extrêmement heurtées. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'après 1945, il y a une mutation colossal dans l'histoire des rapports entre les immigrés et la vie politique en France. Je vous disais que dans l'entre-deux-guerres, on se faisait discret. Mais pendant la guerre, beaucoup d'étrangers avaient pris part à la résistance. Et une fois la paix revenue, ils ont revendiqué ce qu'ils appellent la juste reconnaissance de leur rôle. Et il y a une association qui naît dans la clandestinité, qui est issue de la main-d'œuvre immigrée, donc un groupe de résistants politiques proches des communistes. Eh bien, cette association s'appelle le CADI, le Centre d'Action et de Défense des Immigrés. Et le CADI, né donc en 1944, se constitue avec l'appui des plus grandes personnalités politiques françaises de tous bords politiques, jusqu'au général de Gaulle, et va revendiquer, pour la première fois, dans l'espace public, une prise de parole non seulement étrangère, mais immigrée. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va insister sur l'origine étrangère en politique comme un facteur à valoriser. Mais je dirais que ce CADI a eu peut-être 30 ou 40 ans d'avance. Quand on lit les archives du CADI, ce que j'ai fait, on est troublé par le caractère, alors je ne sais pas s'il faut dire avant-gardiste, ou en tout cas très en avance sur son temps, des revendications. On présente les immigrés comme un électorat qu'il faut convoiter, qu'il faut protéger, qui au nom de son engagement pendant la guerre, a le droit à un juste retour des choses. Et on commence à dire que ce n'est pas parce que l'on est immigré, revendiqué comme tel dans l'espace public, que l'on n'est pas en même temps profondément français. Et là, c'est une mutation que l'on retrouve dans le champ de la vie politique, qui a en réalité trait aux identités. Parce que on passe dans les années 40 et 50, d'un modèle hérité du 19e siècle et surtout modèle triomphant sous la 3e et la 4e République, qui est le modèle de l'assimilation. L'assimilation, c'est le fait de devenir, de se confondre avec la société du pays d'accueil. Il y a un chercheur américain qui disait l'assimilation, alors il posait ça sous forme d'équation, je ne suis pas excellent en mathématiques, mais celle-là je l'ai compris, je vais essayer de vous la faire de même avec vous. Il dit, si on prend A comme pays d'accueil, société d'accueil, et B comme immigré ou groupe d'immigrés, A plus B égale A. C'est-à-dire que le B, l'immigré, disparaît. L'assimilation, c'est le fait de disparaître, ou en tout cas de faire disparaître son identité ou toute marque de particularisme, en tout cas dans la sphère extérieure, voire de disparaître en tant qu'étranger ou qu'immigré, et ne devenir que français. Alors, vous savez très bien, je ne vais pas me lancer dans ce débat vain, qu'en ce moment, on parle beaucoup de ces questions, depuis quelques années, mais particulièrement en ce moment. Et certains disent qu'il faut un modèle d'assimilation, un modèle d'intégration. Bien sûr, je ne rentre pas dans le débat. Et certains disent, oui, mais l'assimilation n'existe pas. Bien sûr qu'il est difficile, l'assimilation est difficile à l'échelle d'une vie, mais l'assimilation telle qu'elle était entendue par la Troisième République et par la Quatrième République, c'était une assimilation sur plusieurs générations. Et j'ai retrouvé dans les archives, documents tout à fait intrigants, c'est ce qu'on appelait, au moment de la procédure de naturalisation, le procès verbal d'assimilation. Il était très clairement dit qu'on ne donnerait jamais la nationalité française à un étranger non assimilé. Mais alors, il y avait beaucoup d'exceptions, mais dans ces procès-verbaux d'assimilation, j'ai retrouvé les directives qui étaient données aux agents chargés de les dresser. Et on disait, c'est à peine si une faute de syntaxe sera acceptée, l'usage de la langue doit être parfait. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu, à la fin des années 50, le fait d'accepter les valeurs du pays d'origine et le mode de vie du pays d'origine. Donc vous voyez qu'après la guerre, il y a cette mutation. Alors vous savez, c'est un temps de transition d'une quinzaine d'années, mais c'est un temps de transition. Et dans tout temps de transition, il y a des éléments d'archaïsme et des éléments de modernité ou de nouveauté qui voisinent. On ne passe pas de l'un à l'autre brutalement. Mais je dirais que c'est dans cette période des années, fin des années 40, années 50, que les choses commencent à évoluer sur le plan donc de la perception des étrangers qui forcément a une répercussion sur le plan politique, et la propre, si j'ose dire, auto-perception et identité affirmée des immigrés et des étrangers. Le passage se situe dans les années 40 et 50, mais je vous parlais du CADI, il n'est pas anodin qu'il ait été interdit en 1950 au moment de la guerre froide, et où on commence à lutter bien sûr contre la subversion communiste, et on arrête beaucoup d'étrangers, on arrête surtout les étrangers politisés. Certains sont cueillis au petit matin dans les années 50 lors d'une opération qu'on appelle opération Bolero Paprika, les Espagnols et les Hongrois qui sont arrêtés au petit matin et qu'on va transférer en Corse et en Algérie. Nous sommes dans les années 50. On va envoyer des étrangers trop politisés, jugés dangereux en Corse et en Algérie. Ça en dit d'ailleurs ça en dit long sur la façon dont on considère l'Algérie et la Corse comme des terres de relégation. Et en tout cas, on lit de la part des associations immigrées, nous nous érigeons contre cette déportation, et les pouvoirs publics qui répondent sont outrés du terme de déportation qui rappelle des époques récentes. Et donc vous voyez que c'est ça qui est intéressant dans cette prise en compte, c'est qu'il y a bien sûr l'évolution des thèmes, l'évolution des motifs, et aussi l'évolution des modèles et de l'identité. Donc je disais, on passe de l'assimilation à l'intégration, si je reprends ma fameuse équation, A plus B, toujours mon A comme société d'accueil et B immigré, A plus B égale, si vous voulez, on dit A prime, c'est-à-dire les immigrés disparaissent en un certain sens en tant qu'immigrés, mais se transforment, et avec elles aussi la société d'accueil. Et c'est ça la grande question en vérité de l'assimilation et de l'intégration. Ce n'est pas, je dirais, mais ça c'est ma propre interprétation pour en discuter, que la question est moins, faut-il demander un abandon des particularismes aux immigrés, ce qui me semble une question un peu vaine, plutôt la question c'est, la société d'accueil doit-elle consentir, elle, à un changement ou pas? C'est ça la grande question qui, à mon avis, est souvent éludée, y compris dans les travaux historiques. Donc, les historiens, en revanche, là, n'ont pas voulu prendre position. Ils n'ont pas voulu faire l'histoire de l'intégration et de l'assimilation. Alors, ils n'ont pas voulu non seulement faire l'histoire, si j'ose dire, objective de l'intégration, autrement dit, est-ce que les étrangers sont intégrés ou ne le sont pas, ou sont-ils assimilés ou ne le sont-ils pas. Mais ils ont même tardé à faire l'histoire de l'idée et de la politique d'assimilation. Ça, c'est une chose extrêmement récente. Car il y a un problème là-dedans. C'est que si on continue à parler de l'immigré comme un immigré, alors qu'on prône l'assimilation. C'est qu'il n'a pas disparu en tant que tel. Si on parle de l'engagement des minoritaires aux côtés des Français, mais qu'on continue de les considérer comme membres et tenants d'une minorité, c'est qu'on continue, et là je vais prononcer ce mot dont les historiens et tous les chercheurs, et même je dirais tout citoyen devrait se méfier, le mot d'essentialisation. Je dirais qu'on reste toujours immigré au regard du coup de celui qui cherche cette spécificité de l'immigré. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Quand on veut faire l'histoire des engagements étrangers, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est obligé d'aller regarder un petit peu du côté des noms de famille, parce que tous n'ont pas parlé. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche qui est un peu gênante pour l'historien. Gérard Noiriel a montré d'où venaient ces réticences. Certains, par militantisme, ils refusent de donner au débat public des éléments. Mais il y a eu quand même des travaux qui ont montré que les Polonais étaient moins bien intégrés que les Italiens ou que les Belges. Et en fait, pourquoi ensuite on s'est mis à chercher des facteurs objectifs d'intégration et d'assimilation? C'est parce que dans les années 80, prévaut l'idée que les anciens immigrés étaient de bons immigrés, parce qu'ils étaient de l'Europe latine et chrétienne, et que les nouveaux immigrés qui étaient d'outre-Méditerranée, si vous voulez, qui étaient extra-européens, étaient de mauvais immigrés, avec l'idée que, voilà, chaque période a les immigrés qu'elle mérite. Et là, les historiens ont dit, non, mais attendez, il faut reprendre quand même le dossier, observons la situation des Italiens, observons la situation des Polonais. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à montrer un petit peu le bout de l'oreille, si vous voulez, pour expliquer et pour s'intéresser à l'intégration et à l'assimilation des étrangers. Et là, les historiens commencent à voir que le facteur politique peut être un excellent vecteur d'intégration. Et puis, toujours dans les années 80, il y a eu, vous savez, la marche des beurs. Donc la marche des beurs a été une revendication. Il fallait voir ce que le passé nous donnait. Et au moment de la marche des beurs, il a été dit que les générations antérieures avaient été silencieuses et passives, à la différence des jeunes, vous savez, ce qu'on appelle les jeunes beurs à l'époque, ça s'appelle aussi les jeunes beurs. Et les historiens montrent qu'il n'en est rien. Justement, donc vous voyez dans ce débat permanent qu'ils ont toujours refusé et auquel ils ont été contraints de prendre part. Alors vous comprenez que, à ceux qui accusent l'histoire, l'approche politique des minorités de découper le réel en catégories, eh bien, une observation même rapide que j'essaie de vous montrer ici, historiographique, prouve qu'il en va autrement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, où l'heure est à la pluridisciplinarité, on redécouvre beaucoup de pans passés de cette question. Mais je le disais, les chercheurs sur l'approche politique de l'immigration ne sont pas très nombreux. Et nous avons eu un peu de difficulté parfois à rassembler un certain nombre d'auteurs susceptibles d'apporter des choses nouvelles à notre approche. Et donc il y a un enjeu très important, à mon avis, un enjeu, je dirais, social, un enjeu scientifique, mais surtout, il y a la question de la conception des structures de réflexion, la structure de l'État, la structure de l'État-nation. Et tout cela, nous avons essayé de le montrer dans ce numéro, qui, si vous voulez, ne veut pas claquer non plus comme une revanche historiographique. Ce n'est pas, si vous voulez, une réponse à tout ce que je vous ai dit. Vous n'avez jamais osé faire l'histoire de l'immigration à travers le prisme politique. Eh bien, nous, oui. Non, ce n'est pas du tout cela que nous avons voulu faire. Nous ne prétendons pas également épuiser le sujet, mais lancer des pistes. Des pistes avec des échelles, avec des degrés divers sur les associations étrangères, sur les rapports entre les partis étrangers et les partis qu'on pourrait qualifier d'autochtones, par exemple le Parti communiste algérien et le Parti communiste français, sur aussi le rôle, et vous savez que ça c'est une question à mon avis cruciale d'aujourd'hui et du passé, on commence à réexaminer le passé dans ce sens, sur le rôle des experts, c'est-à-dire ceux qui ont pu souffler une politique, qu'ils soient des intellectuels ou des juristes, c'est le cas de Louis Renault et de ses collaborateurs à la fin du 19e siècle. Eh bien, je dirais que le problème, c'est que, enfin, il fallait donc assumer cette posture, mais il fallait assumer une posture qui soit à la fois sûre d'elle-même, c'est-à-dire dire qu'on peut faire l'histoire de l'immigration et de la vie politique de façon liée, mais en acceptant que cette histoire était une histoire décalée, une histoire non pas marginale, mais une histoire qui se fait aux marges. Mais peut-être que parfois on voit mieux le centre depuis ses marges, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais en tête ce mot d'Ortega y Gasset, vous savez, sur la révolte des masses, où il dit « la santé des démocraties, quel que soit leur type et leur degré, dépend d'un misérable détail technique, le procédé électoral, tout le reste est secondaire ». Et je me disais alors, nos immigrés là-dedans qui n'ont pas accès à ces urnes, donc qui sont des sans-voix, vous aurez compris la subtilité du jeu de mots, qu'en faire finalement? Eh bien, nous avons voulu voir que finalement c'était tout sauf une question de détail et qu'au contraire, on peut lire l'histoire, je dirais, politique, même à un échelon local et à un échelon national, à travers l'histoire des minorités. Ça ne veut pas dire que l'histoire des minorités éclaire tout, mais l'histoire des minorités nous donne un éclairage différent sur le centre et ses périphéries, sur le pensé, l'évident et l'impensé, le subjectif. Tout cela nous semble, à mon avis, jeter donc une lumière nouvelle sur de grands enjeux que j'ai ici voulu vous présenter, bien sûr, à grands traits, et, si vous voulez, qui se trouve au cœur de l'histoire politique, qui dépasse la simple question du rapport entre nationalité et citoyenneté, puisque certains ont mené un engagement, voire une carrière politique, sans avoir la nationalité du pays d'accueil, et même en espérant toute leur vie retourner dans leur pays d'origine, ce que certains ont fait, ce que d'autres n'ont pas fait. Et je dirais que, c'est une question des identités politiques qui est posée ici, et peut-être que finalement, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré cette omniprésence de la question du vote, malgré cette omniprésence de la centralité nationale dans l'existence même politique, peut-être que, j'espère en tout cas peut-être avoir vous l'avoir montré, peut-être que cette histoire politique, y compris dans le cadre d'un État comme celui de la France, n'est peut-être pas aussi franco-française qu'on pourrait le penser. Et je vous remercie.